Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Témoins de l'Invisible, émission consacrée à l'histoire des apparitions d'ovnis, objets volants non identifiés, et la personne qui, me semble-t-il, était la mieux à même de nous renseigner sur ce sujet, eh bien c'est Joël Ménard, ufologue depuis 50 ans, c'est-à-dire étudiant sur le terrain, les observations de soucoupes volantes, d'ovnis, donc depuis 50 ans, et ancien directeur de publication de la revue Lumière dans la nuit, qui est une des trois revues mondiales les plus reconnues dans le domaine de l'ufologie. Joël Ménard, nous étudions donc l'histoire des objets volants non identifiés, en tout cas de leur observation, depuis l'aube des temps. Et bah, nous, on a fait du chemin depuis le mois de septembre. Nous en sommes à la Seconde Guerre mondiale. Il y a, le mois dernier, vous nous avez parlé de deux cas. L'un extrêmement sûr, irréfutable, celui de Los Angeles en 1942. L'autre, peut-être un peu plus sujet à caution. Pourquoi ? Parce que il y a qu'un témoin, c'est l'affaire de Cape Girardeau en 1941. Alors, vous avez d'autres cas comme ça d'observation d'objets étranges pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains sont militaires, mais d'autres non, pas du tout.
Oui, et d'ailleurs, je me suis plutôt concentré sur des cas en majorité civile. Alors, on peut commencer en restant en avril 41, c'est-à-dire à peu près à l'époque du mystère de Cape Girardeau. Alors là encore, l'affaire n'est connue que par un témoin, mais qui était un témoin extrêmement fiable, c'était Claude Plessis, qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années, mais qui était quelqu'un de très sérieux et qui a fait de l'excellent travail dans sa région, c'est-à-dire dans le Pas-de-Calais. Alors voilà le récit de Claude Plessis. En avril 41, vers les derniers jours de mai, sur un chemin serpentant dans la campagne de Fougères, Ille-et-Vilaine, un groupe de gamins, tous âgés d'environ 10-12 ans, insouciants du conflit dans lequel était plongé le monde, profitaient d'une matinée ensoleillée pour gambader dans la lande bretonne. Ils étaient au nombre de 10. Parmi eux, il y avait Claude Plessis, 11 ans, boulonnais réfugié avec ses parents à Fougères. Nous nous promenions de chaque côté d'un chemin. Le ciel était d'un bleu pur, le soleil brillait très fort. À un certain moment, notre attention fut attirée dans le ciel par une source lumineuse que nous ne pouvions définir. Nous avons regardé et fini par identifier deux barres de métal brillant, de couleur or, parallèles, sans attache entre elles, qui avançaient sans bruit par saccades, en pivotant et suivant un axe perpendiculaire à la route. Notre observation dura quelques minutes. Nous avions tous les yeux rivés au ciel. Je crois que personne parmi nous n'a oublié ce genre de phénomène. Aujourd'hui encore, je suis incapable de donner une explication. À cette époque, on ne parlait pas encore d'OVNI. Voilà le récit qu'a fourni Claude Plessis il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans. Encore une fois, Claude Plessis était quelqu'un de parfaitement crédible et honnête. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. Et bon, ce qu'il nous dit, c'est que en avril 41, à Fougères, en Ille-et-Vilaine, plusieurs personnes ont vu deux barres d'aspect métallique doré qui se déplaçaient dans le ciel. Il y a évidemment aucune explication banale à une observation comme ça. Alors, autre témoignage datant de la même époque, celui de Madame Laviane. qui a rédigé en novembre 1990 le récit suivant. En 1941, j'habitais Saïgon et j'avais 17 ans. Je revenais avec un ami du terrain d'aviation de Tan Son Nhut. Il pouvait être 18h30, la nuit tombait, lorsque nous avons vu à faible distance et très bas une espèce d'énorme ballon de rugby rouge carmin, immobile, et qui produisait un bruit ressemblant à un chuintement. Nous nous sommes arrêtés et nous l'avons observé pendant plusieurs minutes. Il s'est brusquement mis en mouvement et a disparu rapidement. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une météorite brûlant au contact de l'atmosphère et sur le point de toucher le sol. Mais aucune chute n'ayant été signalée, nous l'avons oublié. 20 ans plus tard, j'ai décrit cette observation à un ingénieur météo qui m'a dit qu'il ignorait totalement ce que j'avais vu, mais que de toute façon, il ne s'agissait pas d'une météorite. Alors effectivement, on voit pas du tout comment il pourrait s'agir d'une météorite, étant donné que ça a été vu immobile dans le ciel à faible distance. Les météorites, ça n'a pas l'habitude de planer sur place. Bon, ensuite, je suis l'ordre chronologique. En juin 1942, il y a une observation qui a fait l'objet d'un récit dans un livre qui a été rapporté par un pilote de la RAF, par le pilote d'un bombardier de la RAF, plus précisément du squadron 301 de la RAF, la RAF étant, comme chacun sait, la Royal Air Force. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers britanniques opéraient presque exclusivement de nuit, et c'était les Américains, à partir de leur entrée en guerre, qui prenaient le relais le jour. Alors, ce témoignage, c'est celui du lieutenant Ronan Savinsky, du squadron 301. Ce témoignage a été édité, non pas dans un livre, comme je vous le disais par erreur, mais dans un disque à 78 tours, dont je ne dispose pas, est intitulé UFO. Alors, en gros, le lieutenant Ronan Savinsky raconte que son bombardier, étant donné que c'était en juin 42, je ne sais pas ce que c'était que ce bombardier, j'ai pas eu le temps de chercher sur le squadron 301, c'était peut-être un Wellington ou quelque chose comme ça. Un Wellington, un Hamden. Il y aurait matière à enquête hein, sur ce cas-là comme sur tant d'autres. Ce bombardier avait déversé son chargement dans la vallée de la Roure et rentrait en Angleterre en survolant une partie du territoire hollandais. Et un objet lumineux est apparu derrière l'avion. L'équipage communiquait par le moyen de l'intercom, une espèce de téléphone interne à l'avion. Et Savinsky, alerté par le mitrailleur arrière, lui a dit « si ça s'approche trop près, tu tires ». Ça s'est approché, alors c'était une masse lumineuse, de forme non précisé, pour autant que je sache. Le mitrailleur arrière a tiré dessus, à une distance de l'ordre de 200 mètres, 200 yards, précise la source. Et il voyait ces balles traçantes qui pénétraient dans cette cible lumineuse. Mais c'est tout ce qu'il voyait. Et il ne parle pas d'avion, c'était une masse lumineuse. Bon, ensuite, la chose s'est un petit peu déplacée et un autre mitrailleur est entré en action. Et lui aussi a vu ses balles traçantes pénétrer sans effet observable dans cette masse lumineuse qui s'est ensuite éloignée. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un cas de Foo Fighters. Hein. Le terme Foo Fighters désigne des objets lumineux, autres que des avions, observés par les aviateurs alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. En particulier vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un cas célèbre par un équipage d'un P-61 Black Widow. Et puis il y en a pas mal d'autres. J'ai noté pour ma part une vingtaine d'observations datant de la Seconde Guerre mondiale. Et je poursuis tout en continuant à respecter l'ordre chronologique. Alors, en respectant l'ordre chronologique, nous en arrivons à un cas que j'aime beaucoup, parce que j'ai recueilli ce témoignage il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans, de la bouche même du témoin, Monsieur Jacques Sory. Je n'ai jamais rencontré, hélas, Monsieur Sory, qui habitait Vittel, c'est-à-dire pas très près de chez moi, et tout s'est passé par courrier et par téléphone. Monsieur Jacques Sory avait 84 ans quand il m'a raconté cette affaire, tout d'abord par écrit, en 2011. Ça s'était passé au cours de l'été 42 à Vittel, dans les Vosges. Voici le récit de Monsieur Sory. C'était en milieu d'après-midi, j'avais 15 ans à l'époque, et je me trouvais sur un lopin de terre sur la commune de Vittel où je jardinais. Alors, petite parenthèse, les gens pendant l'occupation avaient de terribles préoccupations, notamment de ravitaillement. Et le jeune Jacques Sory était tout simplement en train de jardiner parce qu'il fallait manger et faire manger ses proches. Et on ne se procurait pas de la nourriture comme on le fait aujourd'hui. Hein. D'où l'activité qu'il avait ce jour-là. Il faisait très beau. Soudain, mon regard fut attiré par un engin qui se déplaçait dans le ciel. Cet objet de forme sphérique pouvait avoir une bonne quinzaine de mètres de diamètre. Il était de couleur sombre. Je me suis immobilisé et je l'ai regardé se déplacer. Il venait dans ma direction. Je me suis précipité vers lui, croyant qu'il allait atterrir. Mais l'objet a repris de l'altitude, 200 à 300 mètres. En passant devant moi, il se déplace lentement, fait une centaine de mètres sur ma droite et s'arrête net. Il reste immobile pendant 6 à 7 secondes, puis s'élève verticalement à une vitesse extraordinaire. Toujours sans bruit, je le perds de vue rapidement. L'endroit où se trouvait le jeune témoin, M. Sory, est connu avec une excellente précision. La sphère est décrite comme une monstrueuse boule de pétanque et elle pouvait avoir entre 10 et 14 ou 15 mètres de diamètre. Elle était de couleur grise, comme une tôle. Elle venait grosso modo de la direction de Darney, c'est-à-dire du sud-est. Alors voilà le témoignage de M. Sory. Il y a des témoignages qu'on aime plus que d'autres. Moi, celui-là, il est précieux pour moi, parce que j'ai beaucoup apprécié la manière dont M. Sory m'a communiqué son témoignage. C'était un homme tout à fait charmant. Les sceptiques... Bien entendu, noteront que le fait que le témoin soit charmant, ça prouve pas la véracité de ses dires. Moi, je dirais que ça inspire confiance. Je ne vois pas quelle raison pouvait avoir ce monsieur de me raconter des balivernes à l'âge de 84 ans. Notons aussi que ce qu'il décrit, c'est une sphère grise, d'apparence plus ou moins métallique, d'un diamètre estimé entre 10 et 15 mètres, et qui s'arrête, qui fait du surplace, et puis qui monte à la verticale à une vitesse fantastique. Alors, si quelqu'un veut trouver une explication banale à une observation comme ça, je lui souhaite beaucoup de courage. On peut probablement, du moins je l'espère, toujours contacter M. Sory, qui est certainement prêt à confirmer son témoignage.
À ce moment de l'émission, moi je remarque, c'est que finalement, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, on voit souvent le même genre de comportement, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait voir des objets étranges au Vietnam, vous nous l'avez dit tout à l'heure, à Saïgon, au-dessus du ciel de l'Europe avec le pilote, et puis au-dessus d'une lande bretonne. Donc c'était déjà un phénomène universel.
Oui, universel, je crois, mais qui est passé relativement inaperçu.
Oui.
Aujourd'hui, on dispose de combien de cas concernant cette période de la Seconde Guerre mondiale ? Quelques dizaines.
Ouais.
Quelques dizaines. J'en ai noté une vingtaine en préparant cette émission. En cherchant plus largement à travers toute la vaste littérature, on pourrait en trouver, je crois, quelques dizaines. Il me semble qu'il serait déjà difficile d'en citer 50 ou 60.
Ouais.
Je voudrais pas être chargé de le faire. C'est donc quelque chose qui a fait peu de bruit. Mais les témoins existent, je sais, j'en ai rencontré. Il y a Monsieur Sory, que j'ai malheureusement rencontré que par courrier et par téléphone. Mais il y en a d'autres que j'ai rencontrés en chair et en os. Par exemple, toujours en suivant l'ordre chronologique, après le cas de Vittel en été 42, j'en arrive à un autre témoignage de l'été 42, sans plus de précision, parce que les gens à l'époque n'ont pas noté la date. Ou bien peut-être ils l'ont noté, mais 50 ans après, ils l'avaient égaré ou oublié. Alors, autre témoignage de l'été 42, dont je garde un très bon souvenir, parce que là aussi j'ai rencontré le témoin, et rien ne vaut le contact avec les témoins. Lire des histoires d'OVNI dans des publications, c'est très intéressant, mais se faire raconter les faits par les témoins eux-mêmes, c'est une toute autre expérience. Ça permet de se faire une opinion de la fiabilité des gens. Et donc, voici maintenant l'histoire que m'a raconté Monsieur Sylvain Jamard. Il m'a raconté son expérience il y a maintenant pas loin de 30 ans. Monsieur Sylvain Jamard habitait à l'époque Ris-Orangis. Et voilà ce qu'il m'a raconté. Ça se passait un soir de l'été 42, vers 22h, au Maroc. Il était sous-officier dans une unité qui s'appelait la première compagnie de guet du Maroc. De guet, G-U-E-T, du Maroc. C'est-à-dire que c'était des militaires qui étaient chargés de surveiller l'espace aérien du Maroc et de vérifier qu'aucun intrus ne venait troubler davantage la situation. C'était d'ailleurs une mission qui allait s'avérer tout à fait justifiée, puisque c'était pendant l'été 42 et que c'est en novembre que les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord et notamment au Maroc. Donc cet objet dont M. Jamard nous a révélé la manifestation a été vu à Safi, à Mogador, à Taroudan et dans la Casbah d'Agadir. À Tabayat, où était M. Jamar, l'objet est passé au zénith et il a été visible pendant 3 à 4 minutes. Au début des années 60, M. Jamar a appris que des rapports avaient été transmis à Rabat et que l'hypothèse d'un avion avait été absolument écartée. Cela dit, il ne s'agit pas d'une observation aussi certainement inexplicable que la précédente, celle de M. Sory. M. Sory a vu d'assez près quelque chose d'énorme, de sphérique, qui s'est arrêté et puis qui est parti à la verticale à une vitesse fantastique. Il n'y a pas d'explication banale à ça, il n'y en a aucune. Par contre, dans le cas de Tabayat, on peut quand même avoir des doutes. Hein. Il vaut mieux le reconnaître quand la situation se présente. À la même époque, il y a eu également au Maroc une autre série d'observations. Et un soir du mois d'août 42, vers 19h45, sur la route reliant Ouedzan, dans le nord du Maroc, près du Rif, au pied du Rif, reliant Ouedzan à Rabat, ces témoins étaient deux médecins, les docteurs Liégeois et Bonjean, et un jeune réserviste qui conduisait la voiture. Ils ont vu soudain une lueur intense et aussitôt un globe lumineux qu'ils ont d'abord pris pour la pleine lune. Ils venaient de se rendre compte de leur erreur quand l'objet s'est déplacé brusquement par à-coup à une vitesse folle du nord-est vers le nord-ouest, passant d'un horizon à l'autre en 1 à 2 secondes. La chose s'est immobilisée et après une trentaine de secondes a disparu subitement. Dans un cas comme ça, je ne vois pas non plus quelle explication banale on pourrait proposer. D'ailleurs, à mon avis, il ne faut peut-être pas se limiter à imaginer des explications banales. L'ufologie qui consiste à imaginer des explications à tout, elle a fait son temps, elle a mené, c'est certain, à des quantités d'erreurs d'interprétation. Il vaut peut-être mieux s'en tenir à ce que racontent les témoins, sans chercher à conclure. Dans le cas de l'observation de Sylvain Jamar, bon, on a un objet qui passe au zénith, qui est visible pendant 3 à 4 minutes. Bon, qu'est-ce que c'était finalement? Je ne sais pas très bien. On ne peut pas toujours savoir. Il y a des cas dans lesquels il est évident qu'on a affaire à quelque chose qu'on ne comprend pas. Exemple, l'observation de Vittel par M. Jacques Sory. Et puis, il y a des cas sur lesquels on ne peut pas dire grand-chose. Et dans ce cas-là, il faut le reconnaître simplement. On poursuit par ordre chronologique.
Tout à fait. Un dernier cas, parce qu'après, il va falloir quitter nos auditeurs. Mais vous avez encore le temps de nous parler d'un dernier cas.
Alors, il y a eu une observation intéressante le 12 août 42 à Toulagi. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais tous les documents écrits donnent l'orthographe T-U-L-A-G-I. Ça devait se prononcer Toulagi ou Toulagi, je ne sais pas. Ça se trouve dans la région de Guadalcanal, c'est-à-dire au nord-est de l'Australie, dans une zone où il y a eu des combats intenses entre les Japonais et les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier en 42, je crois. Alors, l'histoire de Toulagi, ou Toulagi, est la suivante. Un militaire nommé Stephen Brickner de la 1ère division de marine a raconté qu'un matin, alors qu'il était en train d'astiquer son matériel, il a entendu un bruit venant du ciel Et ce bruit, alors quand on était là-bas, quand on entendait un bruit venant du ciel, évidemment, on avait tendance à se précipiter vers les abris, j'imagine. Il y avait de quoi. Mais le bruit qu'il a entendu, ce n'était pas le bruit habituel des formations d'avions japonais qui venaient survoler le secteur avec de méchantes intentions. Alors, Brückner a vu au moins 150 objets qui s'approchaient et cette formation gigantesque était composée d'alignements de 10 à 12 objets les uns derrière les autres. Ça se trouvait à très haute altitude et très vite il a dû être soulagé quand il a compris que c'était probablement autre chose que des bombardiers japonais qui venaient lui rendre visite. Ces objets se déplaçaient par ailleurs beaucoup plus vite que les avions japonais. On ne voyait aucun détail dessus, pas d'ailes, pas d'empennage. Ces objets étaient brillants, ils avaient des formes arrondies et ils reflétaient la lumière du soleil. Cette formation de au moins 150 objets a disparu très rapidement et le témoin, Stephen Brückner, n'a pas compris à quoi il avait eu affaire. Cette affaire a été exposée dans un livre qui s'appelle « Mysteries of the Sky » de Gordon Lohr et Harold Deneau. C'est pas le cas le plus bouleversant qui soit parce que ça a été vu de loin. Je pense qu'il faut attacher beaucoup plus d'importance à des affaires comme celle de Vittel où l'objet a été vu de près, dans des bonnes conditions, décrit avec précision, et qui plus est, par quelqu'un qui est encore parmi nous.
Ouais. Joël, merci, on arrive vraiment là au terme de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour la poursuite de cette enquête à travers les âges sur les objets volants non identifiés. Peut-être qu'on abordera en 4 semaines les ovnis de l'après-guerre. Il y en a eu aussi, évidemment. À bientôt, Joël. Merci beaucoup.
Merci. Chez toi.